Alors, avant de commencer, un avertissement. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que providentielle et indépendante de la volonté du prédicateur. Le texte de cet après-midi parle de gens qui créent des problèmes dans les églises. Le jeune pasteur qui est Timothée est confronté à ce type de personnes dans son église. Et d'ailleurs, Paul lui en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le cadre de cet épître, premier chapitre déjà, plusieurs fois, chapitre 4 également. Et maintenant, Paul va en parler une dernière fois avant de conclure sa lettre. Et cette fois, Paul va dénoncer les motivations profondes de ces gens. Et ça va être très intéressant pour nous aujourd'hui, parce que ça va nous forcer, à notre tour, à réfléchir à ce qui motive et qui conduit fondamentalement notre vie, et notamment notre engagement chrétien si nous sommes croyants. Pour Paul, comme on va le voir cet après-midi, de mauvaises motivations peuvent tout gâcher. De mauvaises motivations peuvent tout gâcher. Et particulièrement des motivations égocentriques, c'est-à-dire l'ambition personnelle au sens péjoratif du terme. Au sens péjoratif du terme ambition. Dans l'église de Timothée, en effet, il y avait des gens, si vous voulez, qui faisaient preuve d'un grand engagement en tant que chrétien, et d'une grande piété, apparemment en tout cas. Mais Paul va dénoncer ces gens-là comme étant motivés, avant tout, par la recherche de leur intérêt personnel. À travers leur engagement chrétien, ces gens-là, semble-t-il, pensaient pouvoir gagner de l'argent, sans doute, du pouvoir, probablement, et de la notoriété, peut-être. Mais d'après Paul, ce genre d'ambition personnelle est un piège fatal pour l'homme, surtout pour le croyant. Alors, quelles sont vos motivations profondes dans la vie? Quelles sont les forces qui vous dirigent dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, par exemple, en venant aujourd'hui à l'église? Êtes-vous ici fondamentalement par amour propre ou par amour pour Dieu? Êtes-vous ici fondamentalement par amour propre ou par amour pour Dieu? Je ne crois pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une troisième possibilité, une autre possibilité. Êtes-vous ici par amour propre ou par amour pour Dieu? Quoi qu'il en soit, voici la leçon de ce texte qu'on va voir cet après-midi. C'est la suivante. Notre vie, surtout si nous nous disons chrétiens, ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel. Notre vie, surtout si nous nous disons chrétiens, ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel. Et pour nous faire comprendre cette leçon, Paul va identifier deux symptômes, nous proposer un remède et livrer une leçon générale. Ok ? Vous êtes prêts ? Vous avez le plan dans le bulletin, les quatre points. Premièrement, notre vie, surtout si nous nous disons chrétiens, ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel, car, premièrement, la recherche de notre intérêt personnel nous empêche de recevoir la parole de Dieu. La recherche de notre intérêt personnel nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Paul relève donc au début du passage un premier symptôme chez ces gens qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle. Et ce symptôme, c'est le suivant, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement de la Bible. Et en fait, ils promeuvent en parole et en acte un autre ancien enseignement que celui de la Bible. C'est ce qu'il dit au verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété. Voilà le symptôme. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que, d'après Paul, c'est l'orgueil qui les habite au lieu du désir d'apprendre humblement. Et par conséquent, dit Paul, ces gens ont une maladie. Ils ont la maladie des discussions et des disputes de mots. C'est son expression, l'expression de Paul. Ce ne sont pas des gens qui se posent des questions sincères et qui cherchent honnêtement à mieux comprendre ce que Timothée leur enseigne en tant que pasteur. Ce sont des gens, au contraire, qui posent des questions malhonnêtes, qui sont des chipoteurs, qui coupent les cheveux en quatre dans le but, entre autres, de manifester leur propre capacité intellectuelle. Et en réalité, d'après Paul, loin de manifester leur propre capacité intellectuelle, cette façon de faire prouve qu'ils ne savent rien. C'est son expression, encore une fois, ils ne savent rien. Et en réalité, c'est une stratégie pour ne pas recevoir l'enseignement de la Bible. Vous avez remarqué la façon dont Paul oppose d'ailleurs cette maladie des discussions et des disputes de mots. Il oppose cette maladie aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dont il dit qu'elles sont saines. Donc vous voyez, il y a la maladie d'un côté, et puis il y a ce qui peut donner la bonne santé de l'autre. Les paroles, les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce type d'ambition personnelle, vous voyez, pour Paul, c'est vraiment un virus. Et la personne qui recherche avant tout son intérêt personnel, si elle ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est parce que bien souvent, cette parole, bien qu'elle soit saine, donc bonne pour notre santé spirituelle, eh bien cette parole, elle va à l'encontre de nos désirs égocentriques. Ça me fait penser à la grimace que font les bébés quand on leur met dans la bouche un morceau d'aubergine ou de navet, quand en fait ils s'attendaient à un morceau de chocolat ou de gâteau. Vous voyez la grimace qu'ils font? C'est la grimace que faisait Valouise en buvant le savon des toilettes, en pensant que c'était son biberon. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Elle s'est vite rendue compte que c'était pas son biberon. Vous voyez la grimace que font les bébés quand ils mangent quelque chose et en fait ils pensaient que ça serait bien meilleur que ce que c'est en réalité. Les bébés pensent savoir ce qui est bon pour eux, mais ce qui est vraiment bon pour eux, en réalité, contredit leurs désirs. N'est-ce pas? Et bien souvent, ça contredit leur orgueil. Et moi, pour avoir eu 4 enfants, en termes d'alimentation, je peux vous le dire, un bébé peut se montrer très, très têtu et difficile. Mais vous savez, il en est de même pour vous et moi. Nous pensons ce qui est bon pour nous. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous. Mais en réalité, ce qui est vraiment bon pour nous contredit nos désirs. Et bien souvent, ça contredit notre orgueil. Et l'orgueilleux n'aime pas qu'on lui enseigne des choses. L'orgueilleux n'aime pas qu'on lui enseigne des choses. Si votre vie, donc, est motivée avant tout par la recherche de votre intérêt personnel, eh bien, vous risquez aussi de vous montrer très, très têtu et difficile par rapport à l'enseignement de la Bible. Parce qu'il y a dans la Bible bien des doctrines qui sont bonnes pour nous, mais qui contredisent notre orgueil. Par exemple, la doctrine du péché, d'après laquelle tout homme est déjà pécheur avant même sa naissance. Et nous sommes coupables aux yeux de Dieu, et il n'y a rien que nous puissions faire par nos propres forces pour nous racheter à ses yeux. Cette doctrine va à l'encontre de notre orgueil, n'est-ce pas? Ou encore la doctrine de la prédestination. Dieu a déterminé d'avance qui d'entre les hommes serait sauvé, et il a décidé selon sa volonté souveraine, qui est bonne et parfaite, et en l'occurrence, en ce qui concerne le salut, elle est secrète. Ça ne va pas... Ça flatte pas notre orgueil, n'est-ce pas, ce genre de doctrine? Ou encore la doctrine de l'autorité objective de la Bible, d'après laquelle l'Écriture sainte est la règle infaillible et objective de notre vie, que ce soit en termes de doctrine ou de mœurs, que cela nous plaise ou non. C'est pas là pour flatter notre orgueil, encore une fois, vous voyez? Alors, question, est-ce que vous recevez de bon cœur l'enseignement de la Bible? Est-ce que je reçois de bon cœur l'enseignement de la Bible? Est-ce que vous posez des questions par souci sincère de compréhension et de fidélité à la parole de Dieu? Ou bien est-ce que c'est une stratégie destinée à détourner cette parole de votre vie parce qu'elle contredit vos désirs et votre orgueil? Vous voyez déjà dans un premier temps comment ce texte nous invite, nous, à examiner nos propres motivations, les forces qui nous dirigent. Notre vie, surtout si nous nous disons chrétiens, donc ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel, car, premièrement, la recherche de notre intérêt personnel nous empêche de recevoir la parole de Dieu. C'est un obstacle à notre propre édification. Mais deuxièmement, la recherche de notre intérêt personnel provoque la discorde dans l'Église. La recherche de notre intérêt personnel provoque la discorde dans l'Église. Paul identifie donc un deuxième symptôme chez ces gens qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle. Ces gens-là, d'après Paul, d'après son analyse, ces gens-là causent des disputes dans l'Église. Notez bien l'analyse de Paul, ici. Parce que ces gens-là ont des motivations égocentriques, par conséquent, ils sont jaloux. Vous voyez ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 4. De là naissent l'envie, c'est-à-dire, ou peut-être dans votre traduction, c'est marqué la jalousie. L'envie, la jalousie, et tout ce qui suit après dans la phrase. Et cette jalousie entraîne à son tour la discorde ou les dissensions, les accusations mensongères, les mauvais soupçons, la paranoïa, vous voyez, et des contestations interminables. Pourquoi? Parce que ces gens ressentent le besoin de se justifier en permanence. Leur motivation repose sur leur ambition personnelle. sur leur intérêt propre. Ces gens-là, d'après Paul, ont l'esprit corrompu. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit corrompu? Ça veut dire l'esprit abîmé, ou pour le dire de façon un peu plus actuelle, hors service. Ils ont l'esprit hors service. Et ils sont complètement à côté de la plaque, dit Paul, en termes de doctrine et de vie chrétienne. Ils sont privés de la vérité. D'accord? Donc c'est grave pour Paul, hein? On est d'accord? La raison derrière tout ça, il le dit à la fin du verset 5, il considère la piété comme une source de gain. Voilà Paul qui met enfin le doigt là où ça fait vraiment mal, sur la motivation profonde de ces gens. Il recherche fondamentalement leur intérêt personnel. Vous savez, généralement, quand des gens travaillent en groupe et que chacun dans le groupe recherche son intérêt personnel, ça ne marche pas très bien. Imaginez une équipe de foot, par exemple, ou une équipe de rugby, où chaque membre de l'équipe recherche son intérêt personnel. Ça n'irait pas bien loin. Imaginez un orchestre symphonique où chaque instrumentiste recherche son intérêt personnel. Imaginez le désordre. Les troisièmes violons sont jaloux des premiers violons qui ont la vedette, alors ils décident de jouer plus fort pour se faire entendre. Ou bien le trompettiste, il est jaloux du bassoniste parce que le bassoniste, il joue plus souvent, et alors le trompettiste décide d'ajouter des mesures à sa partie pour faire concurrence au bassoniste. Ou encore, imaginez le joueur de triangle. Alors lui, il est paranoïaque. Il a des mauvais soupçons sur tout le monde. Il est persuadé que le reste de l'orchestre se moque de lui derrière son dos, parce que son instrument est tout petit, parce qu'il est nouveau dans l'orchestre, et il pense que le chef d'orchestre fait exprès de programmer des morceaux où il n'a pas besoin de jouer. Alors ça le met en rage. Vous voyez, quand des gens travaillent en groupe et que chacun recherche son intérêt personnel, ça ne marche pas très bien. L'orgueil entraîne la jalousie, et la jalousie entraîne les disputes. C'est vrai dans les équipes de foot, c'est vrai dans l'orchestre symphonique, et c'est vrai dans l'église. Les gens qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle provoquent d'habitude d'énormes problèmes dans les églises. Je n'ai que 7 ans d'expérience comme pasteur, et je peux en témoigner. Comme le dit un des commentateurs que j'ai consulté sur ce passage, et j'aime beaucoup cette formule, il dit « Ces gens-là, non seulement ils coupent les cheveux en quatre, mais ils le font avec une tronçonneuse. » Vous voyez, ces gens-là qui recherchent fondamentalement leur propre intérêt, peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est le pouvoir, peut-être que c'est la notoriété, qui sait. Mais ces gens-là vont inévitablement le faire aux dépens des gens qui ont à leurs yeux plus d'argent qu'eux, ou plus de pouvoir qu'eux, ou plus de notoriété qu'eux. Voilà comment fonctionne la jalousie. Et voilà comment sont créées des disputes. C'est de la concurrence. C'est de la concurrence. Et dans l'Église, il ne devrait jamais, jamais y avoir ce genre de motivation. Certains manuscrits ajoutent d'ailleurs, à la fin du verset 5, cette recommandation que Paul adresse à Timothée. Ils ajoutent « Timothée, éloigne-toi de ce type de personne ». Peut-être que dans votre version de la Bible, vous l'avez, cette précision à la fin du verset 5. Alors, question, qu'est-ce que ça vous fait, à vous personnellement, de constater qu'apparemment, il y a dans l'Église des gens qui ont plus d'argent que vous, ou plus de pouvoir que vous, ou plus de notoriété que vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous rend jaloux et envieux? Surtout que ce sont des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord sur tout. Peut-être même qu'ils sont d'une autre génération ou d'une autre culture, et que vous ne vous entendez pas super bien avec eux. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous frustre? Est-ce que vous avez envie de leur faire concurrence? Est-ce que ça vous pousse à vouloir vous affirmer comme par rivalité avec ces personnes-là? Vous avez compris que le texte est encore en train de nous inviter à examiner nos motivations profondes, n'est-ce pas? Notre vie, surtout si nous nous disons chrétiens, ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel, car deuxièmement, comme on vient de le dire, la recherche de notre intérêt personnel provoque la discorde dans l'Église. C'est une cause de dispute. Mais troisièmement, la recherche de notre intérêt personnel entre en contradiction avec le contentement de la foi. La recherche de notre intérêt personnel entre en contradiction avec le contentement de la foi. Donc Paul a identifié deux symptômes chez ces gens-là, qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle. Deux symptômes. Premièrement, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Deuxièmement, ils provoquent la discorde dans l'Église. Mais maintenant, Paul nous propose un remède. Et ce remède consiste à reconnaître qu'en tant que chrétien, on a déjà tout ce dont on a besoin. En tant que chrétien, on a déjà tout ce dont on a besoin. La foi chrétienne, ou la piété, pour utiliser le terme de Paul, est déjà une grande source de gain. Vous voyez ce qu'il dit, verset 6. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. Et ce qu'on gagne à être chrétien, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du pouvoir, ce n'est pas de la notoriété, puisque toutes ces choses, on ne les emportera pas avec nous au paradis, comme il le dit au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Mais ce qu'on gagne à être chrétien, si ce n'est pas de l'argent, du pouvoir ou de la notoriété, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Les gens qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle, les gens qui recherchent avant tout leur intérêt personnel dans la vie, et même peut-être dans leur engagement en tant que chrétien, ces gens-là sont des gens qui souffrent d'insatisfaction. Et ils n'ont pas compris quelle était la véritable richesse du croyant. Qu'est-ce que c'est que cette richesse du croyant ? Imaginez que vous soyez un orphelin et que vous viviez dans un vieil orphelinat, tout sale et sombre, et vétuste et délabré dans une contrée reculée d'un pays d'Europe de l'Est. Et dans cet orphelinat, c'est chacun pour sa peau. Il faut se battre pour sa nourriture, il faut se battre pour un morceau de savon, il faut se battre même pour aller prendre l'air dehors parce qu'il y a trop de pensionnaires et pas assez de surveillants pour que tout le monde sorte en même temps. C'est une situation misérable et vous avez appris avec les années à ne réfléchir et à n'agir qu'en fonction de votre intérêt personnel. Normal. Vous êtes par conséquent devenu quelqu'un de jaloux, quelqu'un de soupçonneux, quelqu'un de calculateur. Et un jour, vous recevez une lettre qui vous est adressée, à votre nom. C'est un richissime et bienveillant Seigneur qui vous propose de vous adopter et de faire de vous l'héritier de toute sa fortune. Alors au départ, bien sûr, vous n'y croyez pas. Mais comme vous n'avez rien à y perdre, vous acceptez, vous jouez le jeu, vous allez voir ce qui se passe. Alors vous répondez, vous dites ok. Quelques jours plus tard, vous recevez une deuxième lettre, toujours adressée à vous personnellement, et toujours de la part du richissime et bienveillant Seigneur. Et il vous appelle dans cette lettre son enfant. Il vous dit toute l'affection qu'il vous porte. Il vous annonce qu'il va venir vous chercher à la fin du mois. Et il a joint à sa lettre un acte notarié qui vous désigne non seulement comme son enfant légitime, mais encore comme l'héritier de tout son royaume. Et vous regardez ces précieux documents. Et les larmes coulent évidemment de vos yeux sur votre visage. Et à partir de ce jour, et en attendant que votre bienfaiteur vous prenne avec lui, vous n'êtes plus la même personne. Fini la jalousie. Fini les mauvais soupçons, fini les calculs malhonnêtes, que vous mangiez à votre faim ou non, que vous vous laviez avec du savon ou non, que vous sortiez prendre l'air ou non, vous êtes malgré tout profondément satisfait de votre situation. C'est bizarre, hein ? Vos motivations les plus profondes ont changé, et pour la première fois de votre vie, vous faites l'expérience du contentement. Et c'est à cela que ressemble le contentement de la foi. Le contentement de la foi chrétienne. Les gens qui souffrent d'insatisfaction et qui par conséquent recherchent avant tout leur intérêt personnel dans la vie sont des gens qui n'ont pas compris quelle était la véritable richesse du croyant. Et pourtant la Bible est explicite à ce sujet. D'après la Bible, Dieu a pourvu en effet au besoin le plus profond des hommes, le besoin d'être pardonné de nos péchés, et réconcilié avec Dieu qui nous a créés. C'est pour cette raison que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est pour libérer du mal et de la mort tous ceux qui croient en lui. Et c'est de ça dont on avait besoin le plus profondément. Mais non seulement cela, non seulement cela, non seulement Dieu a pourvu à notre besoin le plus profond, mais d'après la Bible, Dieu réserve aux croyants un héritage inimaginable. Inimaginable. Voici ce que dit Paul dans l'épître, en introduction à l'épître aux Éphésiens. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Si vous avez placé votre confiance en Jésus, c'est vous qui êtes concerné par cette phrase. Dieu vous a béni de toute, pas de quelques, bénédiction spirituelle. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Dans l'Épître aux Romains, il dit aussi, c'est toujours Paul qui écrit, « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ?» Et voici comment Calvin explique cette idée, il dit, ça c'est pas dans la Bible, c'est chez Calvin. « Quant à nous, dit-il, la piété par elle-même nous est un assez grand gain, parce que par elle nous obtenons ce bien, non seulement d'être héritiers du monde, mais aussi de posséder Christ et de jouir de toutes ses richesses. » C'est ça la richesse du croyant. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et une question peut-être plus importante encore. Est-ce que vous avez, quelle réponse avez-vous donné à la lettre du Seigneur bienveillant qui propose de vous adopter et de faire de vous l'héritier de son royaume, de sa richesse? Dans cette lettre qu'il nous a adressée, la Bible, Dieu appelle les croyants ses enfants. Dieu dit aux croyants toute l'affection qu'il leur porte. Et Dieu nous annonce qu'il va nous prendre avec lui un jour. Et il désigne ceux qui ont confié leur vie à Jésus comme étant les héritiers du monde. Les héritiers du monde. En grec, du cosmos. Les héritiers du cosmos. C'est ça la richesse du croyant. Le remède à l'ambition personnelle, mes amis, c'est le contentement de la foi. C'est le contentement de la foi. Mais il reste encore un point, et c'est un avertissement que Paul veut nous adresser en conclusion de ce passage. Notre vie, donc, surtout si nous nous disons chrétiens, ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel, car quatrièmement, la recherche de notre intérêt personnel conduit en fin de compte à la ruine et au tourment. La recherche de notre intérêt personnel conduit en fin de compte à la ruine et au tourment. Donc Paul a identifié deux symptômes, il nous propose un remède, et maintenant il nous livre une leçon un peu plus générale. Cette leçon concerne ceux dont la motivation fondamentale dans la vie est de s'enrichir. Il le dit explicitement ici, gagner beaucoup d'argent. Il dit que c'est un sérieux problème. L'amour de l'argent, dit-il, est la racine de tous les maux. Mais quand il dit ça, attention, ce n'est pas une affirmation dogmatique, comme si tous les maux du monde ont pour cause l'amour de l'argent. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est une façon de parler. Comme si je disais, par exemple, si je laisse Étienne, mon fils de 4 ans, essuyer la vaisselle, ce serait la porte ouverte à toutes les catastrophes. Vous voyez la façon de parler. Si je laisse essuyer la vaisselle, ce sera la porte ouverte à toutes les catastrophes. Ah bon? Comme une explosion nucléaire ou un tremblement de terre ou un tsunami? Non, bien entendu. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler chez Paul également. Mais les principes que Paul soulève ici s'appliquent de manière plus large à tous ceux qui, fondamentalement, recherchent avant tout leur propre intérêt. Et ce n'est peut-être pas un intérêt financier. Comme on l'a dit, c'est peut-être le pouvoir ou la notoriété ou d'autres choses. Ce que Paul veut nous faire comprendre ici, en tout cas, c'est qu'en réalité, nous ne savons pas ce qui est vraiment bon pour nous. Nous ne savons pas ce qui est vraiment bon pour nous. Nous pensons savoir ce qui est dans notre intérêt. En l'occurrence, dans le texte, ce serait l'argent. Mais en fait, nos désirs naturels sont un piège. Nous pensons qu'en suivant nos désirs, nous pourrons les satisfaire, alors qu'en réalité, quand on suit ses désirs, on ne les satisfait pas, on les nourrit. Et nos désirs grandissent et se multiplient et finissent par nous asservir et nous tourmenter. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous, mais en réalité, c'est le chemin de la ruine et de la perdition. Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation des bébés. Un bébé pense savoir ce qui est bon pour lui, bien sûr, gâteau, bonbons, chocolat, sirop, caramel, etc., etc. Mais imaginons un instant qu'on laisse ce bébé suivre ses désirs. Ok, c'est bon, mange ce que tu veux et rien que ce que tu veux. Est-ce qu'il vivrait longtemps, ce bébé? Pas si sûr, hein? L'alimentation à base de bonbons et de chocolat. Oscar Wilde a dit un jour cette phrase très fameuse: la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est archi faux, mes amis. D'accord? C'est archi faux. Pourquoi? Parce que quand on cède à la tentation, on nourrit la tentation. Quand on suit ses désirs, on nourrit ses désirs et on finit par être esclave de ses désirs. On leur donne de la puissance en y cédant. Vous voyez le piège dont parle Paul dans ce texte, hein, versets 9 et 10. L'ambition personnelle comme motivation fondamentale pour la vie et pour l'engagement chrétien en particulier, c'est un chemin sans issue. C'est un chemin, d'après Paul, qui mène loin de la foi, qui mène au tourment que nous infligent nos propres désirs et qui mène, en fin de compte, à la perdition. C'est pour ça que j'ai intitulé cette passage, cette partie, une descente en enfer. Vous connaissez ce proverbe, hein, dans l'Ancien Testament: telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Ce proverbe est répété deux fois dans le livre des Proverbes. Voilà l'avertissement plus général que Paul voulait nous livrer à la fin de ce passage, concernant les gens qui sont motivés fondamentalement par leur ambition personnelle à eux. Notre vie ne doit pas être motivée avant tout par la recherche de notre intérêt personnel, car la recherche de notre intérêt personnel, comme on vient de le dire, conduit en fin de compte à la ruine et au tourment. Alors pour conclure, Paul a donc voulu parler, une fois de plus, des gens qui créent des problèmes dans l'Église, et notamment ici, en l'occurrence, dans l'Église de Timothée. Ce sont des gens, d'après Paul, dont l'engagement chrétien a peut-être l'air sérieux, dont la piété est peut-être impressionnante, mais Paul a dénoncé leur motivation profonde. Et ce sont des motivations égocentriques. Ils recherchent avant tout leur propre intérêt, et c'est, pour ces gens-là, un obstacle à leur édification, c'est notre premier point. C'est une cause de dispute, deuxième point. C'est un problème d'insatisfaction, troisième point, et c'est une véritable descente en enfer, quatrième point. Alors, quelles sont vos motivations profondes dans la vie, mes amis? Quelles sont les forces qui vous dirigent? Est-ce que c'est l'amour propre qui conduit votre vie? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Je finis simplement avec ces deux versets de l'Épître aux Philippiens. Philippiens 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, 3, 4. On s'en souvient bien comme ça. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen.